Les hivers canadiens ont quelque chose d'unique. Les paysages majestueux qu'offrent les arbres ployant sous une couverture de neige fraîchement tombée. La joie d'aller dehors pour faire des activités hivernales super amusantes avec vos proches. Ces journées particulièrement froides, agrémentées par des ciels d'un bleu vif, des vents tonifiants et une neige qui craque sous vos pas. Et les sueurs froides que vous avez en ouvrant votre facture de chauffage. Pas surprenant alors que beaucoup d'entre nous soient pris de frissons en parlant de frais de chauffage. Saviez-vous que près de 2/3 de l'énergie consommée par les habitations canadiennes servent au chauffage et à la climatisation? C'est vrai, mais il doit bien y avoir une lumière toute chaude au bout de cet obscur tunnel de froideur. Les scientifiques et ingénieurs de Ressources naturelles Canada croient qu'une technologie prometteuse peut contribuer à réduire votre consommation d'énergie, la thermopompe. Les thermopompes, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi tout le monde en parle? Conviennent-elles à vos besoins? Pour le savoir, restez à l'écoute. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science simplifiée, le balado qui vous parle de l'excellent travail scientifique que font nos experts à Ressources naturelles Canada. Je m'appelle Joël Hull. Nous avons un épisode vraiment intéressant pour vous aujourd'hui. Nous parlerons de deux choses qui me tiennent à cœur, rester au chaud et économiser de l'énergie. La thermopompe est un concept intriguant et déroutant pour moi. Pour être honnête, je ne comprends pas très bien leur fonctionnement. Plus j'en sais à leur sujet, plus j'ai de questions. C'est en partie pour cette raison que j'ai pensé qu'il serait bon de faire un balado sur ce thème. Sur ce, accueillons maintenant notre invité pour qu'il puisse nous aider à faire la lumière sur la question des thermopompes. Nous avons avec nous aujourd'hui Philippe Simard, agent de développement technologique au Centre CanMet Énergie à Varennes. Philippe, bienvenue à l'émission.
Merci, ça me fait plaisir.
Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous?
Oui, ben, je suis ingénieur mécanique, diplômé de l'Université de Sherbrooke et je travaille comme ingénieur de recherche et chargé de projet chez Ressources naturelles Canada depuis 2004. Au sein de Ressources naturelles Canada ou RNCAN, je travaille dans un centre de recherche qui s'appelle CanMet Énergie. Il y a présentement 4 centres de CanMet Énergie au Canada. Et je travaille dans celui qui est situé à Varennes, au Québec. J'ai travaillé en modélisation de systèmes de pompes à chaleur, de systèmes de réfrigération dans les arénas, dans les supermarchés. Et présentement, je me concentre surtout dans la réalisation de projets de démonstration, notamment dans des projets où on a utilisé l'énergie solaire pour tester un système de climatisation, des pompes à chaleur haute température et des pompes à chaleur géothermiques qui utilisent le CO2 comme fluide frigorigène.
Pompe à chaleur puis thermopompe, c'est la même chose?
C'est la même chose. Le mot thermopompe, ça a une connotation peut-être un petit peu plus commerciale, mais c'est la même chose qu'une pompe à chaleur. En anglais, il y a juste un terme qui est pompe à chaleur, heat pump. En français, on a cette ambiguïté-là, mais qui, en fait, en est pas une.
Là. OK. Bon, on est ici pour parler de thermopompe ou de pompe à chaleur. Tu m'as commencé par le commencement. C'est quoi une thermopompe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait?
Bien, une pompe à chaleur, c'est un appareil qui généralement utilise de l'électricité. De toute façon, on va parler de pompe à chaleur électrique aujourd'hui. Donc, c'est un appareil qui utilise de l'électricité pour... entre guillemets, pomper ou aller extraire de la chaleur qui est comme cachée dans l'air extérieur ou dans, ça peut être dans un autre fluide, mais dans un endroit où normalement on serait pas capable d'utiliser cette chaleur-là. Puis on peut la pomper, l'extraire et l'utiliser dans un endroit où on veut faire du chauffage. Donc, si on prend, par exemple, les conditions d'hiver canadien où on a de l'air extérieur qui est à moins 10 degrés Celsius, mais évidemment, à moins 10 degrés Celsius, si on fait rentrer de l'air à moins 10 dans une maison, on ne chauffera pas la maison, on va la refroidir. Mais avec une pompe à chaleur, on est capable d'aller chercher l'énergie et de la chaleur qu'il y a dans cette air-là pour l'amener dans la maison, puis avoir de l'énergie utile pour chauffer la maison. Donc, cet appareil-là va consommer de l'électricité comme une plainte chauffante, mais à la différence que une plainte électrique va avoir une efficacité de 100% ou 99 et quelques poussières. Donc, pour une unité d'électricité, on va obtenir une unité de chaleur avec une plainte électrique. Avec une pompe à chaleur, si on regarde l'énergie qu'on obtient avec la pompe à chaleur divisée par l'électricité qu'on consomme, on va avoir des efficacités entre 200 et 400 %. Donc, pour une unité d'électricité, on peut obtenir 4 unités de chaleur avec une pompe à chaleur. Et donc, sur une saison de chauffage au complet, une maison qui va utiliser une pompe à chaleur va consommer beaucoup moins d'électricité qu'une maison qui chauffe avec des plaintes électriques. Est-ce qu'on a le temps d'expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de la machine?
Oh oui, définitivement.
OK. Donc, je peux essayer de vulgariser un peu là, comment ça fonctionne. Là, une pompe à chaleur, finalement, c'est un peu comme un système de réfrigération inversé. Dans un réfrigérateur, on a le côté froid qui est à l'intérieur du frigo, puis la chaleur est rejetée en arrière du frigo. Une pompe à chaleur, c'est un peu la même chose. C'est comme si on avait l'intérieur du frigo qui est à l'extérieur du bâtiment, puis la partie chaude du frigo est à l'intérieur du bâtiment. Puis pour arriver à faire ça, on met à profit le fait que les liquides, les fluides, lorsqu'on change leur pression, leur point d'ébullition va changer. Si on se souvient d'une expérience qu'on a faite en science quand on était au secondaire, on sait que l'eau, le point d'ébullition de l'eau à la pression ambiante, c'est 100 degrés Celsius. Mais si on prend le bol d'eau, qu'on le met dans une cloche sous vide, puis qu'on baisse la pression de l'eau, bien, il arrive une pression lorsque le vide est suffisamment fort où l'eau va se mettre à bouillir à la température ambiante. Donc, à 20 degrés Celsius, on peut faire bouillir de l'eau si la pression est suffisamment faible. Mais c'est un peu le même principe qu'on utilise dans une pompe à chaleur. Donc, avec un compresseur, on va abaisser la température, la pression du fluide pour que ce fluide-là puisse bouillir à la température extérieure. Donc, s'il fait moins 10 dehors, si on arrive à baisser la pression suffisamment faible à ce fluide-là pour que son point d'ébullition descende à moins 15, bien là, si le fluide va être à une température plus froide que le milieu extérieur, et il va pouvoir absorber de la chaleur du milieu extérieur. C'est comme ça qu'on arrive à tricher un peu, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on refroidit un fluide plus froid que la température extérieure. Donc, s'il fait zéro à l'extérieur, si on arrive à refroidir un fluide à moins 5, bien, il va pouvoir absorber la chaleur de l'air extérieur. Puis, suite à ça, on va le comprimer, on va le compresser. Et là, avec l'énergie de compression, le fluide va devenir plus chaud. Et cette chaleur-là va être rejetée dans la maison, pour chauffer la maison.
Wow, super intéressant. Alors, dans quel cas devrait-on opter pour une pompe à chaleur?
La pompe à chaleur, c'est un appareil qui fonctionne à l'électricité. Et dans la mesure où on a de l'électricité qui provient de sources renouvelables, c'est toujours un bon choix. Donc, si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est la technologie là, en ce moment qui est à préconiser pour réduire les GES ou les gaz à effet de serre. L'autre chose aussi, au niveau de selon la tarification énergétique qu'on va avoir, les pompes à chaleur, généralement, au Canada, sont un bon choix Je dirais surtout au Québec, là, où on a une situation privilégiée pour l'électricité par rapport au gaz ou à l'huile. Mais en général, au Canada, là, dans la plupart des provinces, il y a une étude qui a été faite par Ressources naturelles Canada en 2020. Et pour les endroits là, qui chauffent présentement à l'électricité ou au mazout, les coûts d'exploitation avec une pompe à chaleur étaient inférieurs qu'avec des plaintes électriques ou du mazout. Pour ce qui est du gaz, là, il y a certaines provinces où les coûts d'opération au gaz étaient comparables avec une pompe à chaleur, mais disons qu'en général, dû à l'efficacité là, de 200 à 400 % de l'appareil, c'est un bon choix. Maintenant, il y a aussi le type de maison qu'on a. Selon il y a certains types de pompes à chaleur qui vont être mieux adaptés ou moins bien adaptés. Donc, si on n'a pas de conduit de distribution d'air ou de tuyauterie de distribution d'eau chaude, on va devoir opter pour une unité air-air sans conduit. Donc, c'est une unité bi-bloc ou ce qu'on appelle en anglais un split unit, où on va avoir une unité extérieure et une petite unité murale, voire deux, qu'on va installer sur les murs dans les pièces communes de la maison. Donc, l'avantage de cet appareil-là, c'est qu'il ne nécessite pas de réseau de distribution d'air, mais ça permet pas une distribution complète de la chaleur dans toutes les pièces. Donc, ça va chauffer les aires communes de la maison, mais ça pourra pas, par exemple, chauffer la petite salle de bain à l'autre bout de la maison. Si on a des conduits, un système central de distribution d'air avec une fournaise électrique ou au mazout qu'on veut remplacer, ben là, on peut placer une unité centrale dans le système central de distribution d'air. Et là, on pourra distribuer de l'air chaud provenant de la pompe à chaleur dans toute la maison. Puis si on a un système à l'eau chaude qui fonctionne à basse température, on peut également utiliser une pompe à chaleur air haut. Donc, on va avoir une unité extérieure à l'air. Et à l'intérieur, on peut avoir une unité qui va chauffer de l'eau plutôt que de l'air et conserver nos radiateurs à eau existants pour les raccorder à la pompe à chaleur.
C'est une technologie qui a beaucoup de différentes configurations, qui a beaucoup de différentes demandes aussi. Alors, si quelqu'un envisage installer une thermopompe, une pompe à chaleur, quels sont les facteurs à prendre en considération?
Bien, il y a plusieurs facteurs là, qu'on peut regarder, autre celui là, de la volonté de vouloir réduire les gaz à effet de serre, là, parce que je pense que tout le monde est sensibilisé à ça. Le premier, c'est le coût de l'appareil et sa disponibilité. Évidemment, une plainte chauffante coûte 100 $, un thermostat programmable, c'est 40 $. Si on fait abstraction là, du prix de l'électricien qui va faire l'installation, c'est très peu cher. Une pompe à chaleur bi-bloc, on parle de 3 000, 4 000 $ pour des unités centrales, pour un gros cottage, c'est beaucoup plus cher. Donc, il y a un investissement initial à considérer là-dedans. Évidemment, il y a un retour sur l'investissement qui peut être payant, mais il y a l'investissement initial. Donc ça, c'est un des facteurs à prendre en considération là, si on est en mesure de pouvoir s'offrir cet investissement initial-là. L'autre, bien, c'est les subventions disponibles. Il y a pas mal toujours des programmes de subventions pour la rénovation domiciliaire. Au Québec, il y a Réno Climat, Novo Climat, Chauffe et Vert, Hydro-Québec, d'autres compagnies d'utilité là, au Canada qui vont offrir des subventions pour l'installation de pompes à chaleur. Puis au niveau fédéral, là, il y a la subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Donc, avec les programmes de subvention disponibles, il y a des années où il y a des meilleurs programmes de subvention. Donc, des fois, ça vaut la peine là, d'attendre d'avoir accès à ces programmes de subvention-là. Ensuite, il y a la disponibilité d'avoir des installateurs qualifiés dans la région. Je sais qu'au Québec, les pompes à chaleur, ça fait longtemps que c'est disponible au Québec. Donc, il y a beaucoup d'installateurs au Québec. C'est peut-être pas le cas partout dans toutes les régions du Canada. Donc, ça, c'est peut-être un facteur à considérer aussi, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir installer cet appareil-là, quelqu'un à qui on a un entrepreneur de confiance qui est en opération depuis longtemps et qui va pouvoir faire le service de ça. Parce que les pompes à chaleur, c'est un produit qui est mature technologiquement là, depuis assez longtemps au Canada, mais ça reste quand même un appareil complexe comparé à une plainte électrique. Donc, ça prend des gens qualifiés là, pour faire l'installation de ça. Ensuite, il y a l'état de la maison. Donc, évidemment, si on a une maison qui est mal isolée, qui est en mauvais état, l'installation d'une pompe à chaleur n'aura pas nécessairement tous les bénéfices qu'on aura dans une maison qui est bien isolée, étant donné que la maison va consommer plus d'énergie là, en raison des infiltrations, des fenêtres qui sont peut-être un moins bon rendement énergétique. Ensuite, il y a différentes qualités au niveau des pompes à chaleur. Quand je dis qualité, là, je parle au niveau de la performance qu'on exprime sous forme de rendement saisonnier, donc ou de coefficient de performance. Donc, plus une unité est performante, moins elle va consommer d'énergie dans la même maison. Donc, dans le même climat, là, dans la même maison, il y a des unités qui vont consommer moins d'énergie, puis il y a des unités qui vont consommer plus d'énergie. Évidemment, les appareils qui ont le meilleur rendement et qui donc vont consommer moins d'énergie vont être plus chers à l'achat, mais ils vont avoir une meilleure rentabilité à long terme sur la durée de vie de l'appareil. Ensuite de ça, il y a les endroits où on va pouvoir installer la pompe à chaleur. Donc, il y a des règlements municipaux à considérer, en région urbaine, il va y avoir des dégagements à respecter sur les côtés de la maison, par exemple. Donc ça, c'est des choses à vérifier avant d'installer une pompe à chaleur. Et également, à l'intérieur de la maison, si on opte pour une unité sans conduit, donc une unité murale, il va falloir trouver un endroit dans la maison où l'installer. Ça, c'est un autre facteur à considérer. Puis finalement, il y a le type de système de distribution de chaleur qu'on a dans la maison. Est-ce qu'on a des conduits de distribution d'air ou pas? Est-ce qu'on a un système hydronique qui est relié à des radiateurs à eau chaude? Donc ça va influencer sur le type de pompe à chaleur qu'on va acheter.
Alors vraiment, il y a beaucoup de choses à considérer.
Oui. Puis ça, dans tous les cas, l'entrepreneur qui vend ce type d'appareil-là va être en mesure de conseiller le client.
OK, super. À votre avis, Philippe, pourquoi les pompes à chaleur sont-elles aussi populaires, comme surtout à la grandeur de la fonction publique et dans les médias? Tu as mentionné la réduction de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est un des facteurs?
Je dirais que c'est le facteur principal. En ce moment, au Canada, c'est la technologie qui est mise de l'avant là, comme la technologie principale pour réduire l'émission de gaz à effet de serre dans les bâtiments, que ce soit les bâtiments résidentiels, mais également commerciaux là, ou les bureaux. Et le gouvernement canadien fait le même constat également pour ses propres bâtiments. Donc, le gouvernement fédéral a 37 000 bâtiments dans son parc de bâtiments, puis il fait également le même constat là, que les pompes à chaleur électriques, dans la mesure où l'électricité va provenir de plus en plus de ressources renouvelables, c'est la technologie qui va permettre la meilleure réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments. Puis c'est la même chose aussi au niveau mondial. Si on regarde ce qui est avancé par l'Agence internationale de l'énergie, c'est la technologie qui est proposée par l'Agence internationale de l'énergie. C'est ce qui est mis de l'avant en ce moment également en Europe. Suite à ça, il y a d'autres facteurs, là, comme le prix de l'énergie. On a assisté à une augmentation du prix du mazout l'année passée, du prix du pétrole, le prix du gaz. Donc, lorsque le prix du gaz augmente, ou de l'huile augmente, ça augmente l'intérêt pour les systèmes de chauffage à l'électricité. La crise énergétique en Europe vient alimenter aussi cet intérêt-là. Donc, l'Europe veut diminuer sa dépendance au gaz et même si leur électricité vient du gaz, en utilisant une pompe à chaleur, ils peuvent diminuer en ayant une efficacité de 300%, mais ils peuvent diminuer par 3 leur consommation d'énergie, donc leur consommation de gaz en utilisant une pompe à chaleur. Ça, c'est un autre facteur là qui alimente l'intérêt. Et il y a une autre chose aussi, qui est un peu plus, pas mondain, là, mais plus au niveau du confort, c'est que les pompes à chaleur, ça vient avec de la climatisation. Et donc, c'est un élément de confort de plus qu'on peut s'offrir dans une maison si on remplace notre système de chauffage au mazout ou de plaine chauffante. Si on installe une pompe à chaleur, le bonus qu'on a, c'est que on obtient un système de climatisation l'été pendant les journées chaudes.
C'est un bon bonus, définitivement. Okay, ceci dit, donc, faudrait vraiment mentionner que les thermopompes, c'est pas pour tout le monde. Quelles sont les idées fausses qui circulent souvent au sujet des thermopompes?
Là, on vient de parler, c'est ça, de la climatisation. Donc, une pompe à chaleur, ça ne sert pas seulement au chauffage, ça peut servir en climatisation aussi. Donc, on a déjà vu cette idée-là le circuler. C'est faux. Une autre idée préconçue qu'on a, qui est généralement fausse, c'est que une pompe à chaleur peut assurer le chauffage complet d'une maison au Canada sans chauffage auxiliaire. Généralement, c'est pas vrai. La majorité des pompes à chaleur sur le marché en ce moment vont pouvoir fonctionner jusqu'à des températures extérieures de moins 15 à moins 20 degrés Celsius. Donc, lorsqu'on a des températures très froides, la pompe à chaleur ne pourra pas assurer le chauffage de la maison et on va avoir besoin d'un système de chauffage auxiliaire qui peut soit être électrique ou on peut conserver le système auxiliaire à une autre énergie comme le gaz ou le mazout. Maintenant, il y a des pompes à chaleur à climat froid qui ont fait l'apparition sur le marché au Canada, là, où on peut la pompe à chaleur peut fonctionner jusqu'à moins 25 degrés Celsius, mais c'est un peu plus nouveau et c'est des produits qui vont être plus chers et donc qui vont avoir des retours sur l'investissement plus longs. Une autre idée préconçue, c'est qu'un gros appareil, une grosse pompe à chaleur va être meilleure qu'une plus petite, justement pour en pensant qu'on va pouvoir chauffer toute l'année avec. Mais c'est pas vraiment une bonne idée parce que si on installe un appareil qui est trop gros, l'appareil va fonctionner avec ce qu'on appelle à charge partielle, où l'appareil va devoir effectuer des cycles d'arrêt et de départ lorsque les charges de chauffage sont pas élevées, sont plus faibles. Et donc, la pompe à chaleur, si elle fonctionne à capacité partielle ou qu'on la fait arrêter et démarrer souvent, ça va diminuer beaucoup son efficacité. Et donc c'est pas une bonne idée là d'utiliser un appareil trop gros. Donc le dimensionnement de l'appareil est important dans le cas d'une pompe à chaleur. L'autre idée, c'est que les pompes à chaleur peuvent pas fonctionner en climat très froid. Ben là, ça revient à ce que je disais tantôt. Il existe des pompes à chaleur qui peuvent fonctionner en climat froid jusqu'à moins 25, moins 30, mais c'est des appareils qui sont plus chers à l'achat et qui vont avoir des retours sur l'investissement plus longs, donc qui sont peut-être pas là pour toutes les clientèles. Le bruit, c'est quelque chose qui ressort aussi souvent là, dans les discussions. C'est sûr que dans les années 80, là, les premières pompes à chaleur qu'on installait, c'était beaucoup plus bruyant. Mais maintenant, là, les ventilateurs, les vitesses de ventilateurs ont diminué beaucoup. Puis il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour diminuer le bruit. Et c'est quelque chose là, qui s'est rendu très silencieux. Là, donc, c'est beaucoup moins un enjeu que c'était. Puis la dernière, c'est pas vraiment une fausse idée, mais c'est une nuance là sur une fausse idée, c'est que les pompes à chaleur sont bonnes pour l'environnement. Donc c'est vrai, mais avec peut-être quelques nuances. C'est que le réfrigérant, le gaz frigorigène qu'on utilise à l'intérieur des pompes à chaleur, anciennement, c'était des substances qui détruisaient la couche d'ozone. Ce problème-là a été réglé il y a 20 ans. Mais maintenant, les fluides frigorigènes qu'on utilise dans les pompes à chaleur causent le réchauffement climatique lorsque le gaz s'échappe de la pompe à chaleur. Donc là, il y a beaucoup de recherches qui est fait, beaucoup de développement pour utiliser des produits qui vont moins réchauffer la planète, mais il y a certaines pompes à chaleur, il y a certains réfrigérants qui sont mieux que d'autres. Puis finalement, il y a l'utilisation de l'électricité. Selon la provenance de notre électricité, évidemment, tu sais, si l'électricité provient de centrales au mazout, ben le fait d'installer une pompe à chaleur plutôt que de brûler du mazout directement dans la maison, c'est pas nécessairement là on n'aura pas le même effet que si l'électricité provient de sources hydroélectriques, par exemple.
Wow! Alors, vous nous avez donné beaucoup d'informations, beaucoup de facteurs à considérer et d'informations à digérer. Si nos auditeurs souhaiteraient obtenir plus d'amples renseignements sur les pompes à chaleur, est-ce que vous avez des ressources en ligne à leur recommander?
Bien, il y a toujours les compagnies d'utilité publique, électricité, qui souvent ont des aides en ligne, des fois des outils d'aide à la décision, pour encourager les clients à convertir leur système de chauffage électrique, de leur plaine chauffante électrique, à des pompes à chaleur. Les gouvernements provinciaux vont souvent offrir des subventions, puis ils vont avoir des ressources sur leur site web. Même chose, le gouvernement fédéral, Ressources naturelles Canada, qui a des guides. Il y a un guide là, de Ressources naturelles Canada qui s'appelle « Le chauffage et le refroidissement à l'aide d'une thermopompe ». NRCan a fait également une étude là, en 2020 où on évaluait la rentabilité économique des thermopompes à air, mais en climat froid, donc des appareils qui peuvent descendre jusqu'à moins 25 degrés Celsius.
C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va insérer les liens dans la description, comme ça nos auditeurs n'auront pas besoin. Oui, ça va être plus facile, disons, de trouver l'information. Philippe, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui.
Ben, ça m'a fait grand plaisir. Puis si vous avez d'autres questions, ça me fera plaisir de participer une autre fois à ce podcast.
Certainement. On va te ramener, définitivement. Merci, Philippe.
Excellent. Merci.
On a reçu là une énorme dose d'informations. J'imagine que lorsque la question de thermopompe, de nombreux points sont à prendre en considération. Si vous souhaitez explorer davantage l'univers des thermopompes, nous vous invitons à suivre les liens dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.